flash d'actualité. Votre point sur l'actualité nationale et internationale avec la rédaction de Ripley News. Claude Varan. Bonjour Claude.
Bonjour à tous. Intempérie mortelle, une femme est décédée dans l'Aisne à la suite d'une coulée de boue causée par les orages. Cette femme âgée de 57 ans est donc morte après une coulée de boue sur la commune de Courmel. Son conjoint a été blessé et transporté à l'hôpital. Aux alentours de minuit, un événement intense et très localisé de précipitations a engendré un phénomène de ruissellement et de coulée de boue dans cette commune donc du département de l'Aisne. De violents orages ont balayé une partie du nord de l'Hexagone hier soir. Météo France avait placé 17 départements en vigilance orange, de la Marne au Calvados en passant par l'Île-de-France, mais c'est Lyon qui a été particulièrement touché. Lyon a été le département le plus foudroyé hier soir, selon le compte spécialisé Météo 89 sur X. Des rivières de grêle ont envahi les rues de certaines localités. Les poules qui ont pondu vos œufs sont-elles élevées dans de bonnes conditions? Et le bœuf qui a donné votre steak ou encore la vache pour votre lait? Dans un rapport publié ce jeudi, l'ANSES préconise de créer un score du bien-être animal et de l'afficher sur les produits. Un dispositif inspiré du Nutri-Score sur la qualité nutritionnelle des articles en rayon. Après être intervenu à Los Angeles et sur le campus de Columbia à New York, la police a été déployée cette nuit sur plusieurs campus américains, théâtre d'une mobilisation étudiante contre la guerre à Gaza. À l'université du Texas à Dallas, la police a démantelé un campement et arrêté au moins 17 personnes. Selon l'établissement, environ 300 personnes ont été interpellées à New York sur deux autres sites, a dit la police. Un appel à la grève a été lancé à la SNCF pour la journée du 21 mai par le syndicat Sudrail Île-de-France. Les cheminots entendent faire pression sur la direction de la SNCF avant les négociations prévues sur les primes versées pour les JO de Paris. Des perturbations sont donc à prévoir sur le RER et les Transiliens. Mauvaise soirée pour le Paris Saint-Germain du football. Gravir le mur jaune est un défi qu'il ne faut jamais sous-estimer. Le Paris Saint-Germain l'a appris à ses dépens hier soir, s'inclinant sur la pelouse du Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le score 1-0.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
You fill me up till you're empty. I took too much and you let me. We've been down all these roads before. It's dark, it's cold. If my head is not the one you're meant to hold. If my head is not the one you're meant to hold. Once was, but it's faded away. These broken memories. I'm left here alone and afraid to say. Maybe you would be happier with someone else. Oh.
se brosser la langue au quotidien pour lutter notamment contre la mauvaise haleine, depuis quelques années, c'est la tendance. Une erreur selon les spécialistes de l'Association dentaire française ou ADF. La langue est un organe important qui nous sert à manger, parler, embrasser et dont il faut bien sûr prendre soin. Se laver, se brosser la langue au quotidien pour la nettoyer ou éviter la mauvaise haleine, nous sommes nombreux à le faire. Mais ce n'est pas une bonne idée, alertent les spécialistes. Il faut le savoir en effet, une langue en bonne santé se nettoie seule grâce tout simplement à la salive que l'on déglutit 1000 à 2000 fois par jour. La brosser avec une brosse ou un gratte-langue peut en altérer la surface, petites blessures, desquamations, inflammations et même infections, mais aussi perturber l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Or les bonnes bactéries nous aident à digérer, produisent des vitamines et réduisent le risque de prolifération des bactéries étrangères. Brossage ou raclage quotidien de la langue n'est donc pas un bon geste à avoir, celui-ci pouvant en plus abîmer les papilles et donc altérer le goût. Les seules personnes qui ont intérêt à se laver la langue, en douceur et occasionnellement, sont ceux dont la langue est recouverte d'un enduit blanchâtre, les fumeurs et en fait tous ceux dont la production de salive est altérée. Quant à la mauvaise haleine, dans 9 cas sur 10, elle est liée à la plaque dentaire. Se brosser les dents sera donc bien plus efficace.
Vous écoutez Radio Public Santé, la radio
qui vous veut du bien.
C'est sur le www.publicsante.com.
votre voix, vous l'aimez un peu, beaucoup ou pas du tout? Si elle ne vous plaît pas, si vous la trouvez trop haute, trop basse, pas assez assurée ou trop agressive, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce cas. La plupart des gens sont déçus lorsqu'ils entendent leur voix enregistrée pour la première fois, par exemple sur un répondeur. En effet, la voix que nous percevons de l'intérieur, en raison des vibrations internes du corps, est différente de celle que nous émettons vers l'extérieur. Il faut donc apprendre à se familiariser avec notre voix objective, celle que les autres entendent. Et comme pour un instrument de musique, apprendre à en jouer. La voix peut être un atout, elle peut nous servir ou nous trahir lorsqu'elle se casse, se voile ou s'essouffle sous l'effet de la fatigue, du stress ou de l'émotion par exemple. Pour les enseignants, les commerciaux, les managers ou encore les journalistes de radio, c'est un outil de travail très important. Pour être écouté, il faut d'abord se faire entendre. Chaque voix se distingue par sa puissance, sa hauteur, des graves aux aigus, et surtout par son timbre, l'empreinte qui la rend unique. Des caractéristiques en partie héréditaires qui dépendent surtout de l'épaisseur, de la longueur et de la vibration des cordes vocales. Ces cordes vocales, on ne peut pas les muscler. Mais comme la voix mobilise plus de 300 muscles dans tout le corps, pour mieux la faire sortir, on travaille beaucoup sur la posture, la verticalité du bassin, du dos, du cou et de la tête. Il faut aussi lâcher prise et réapprendre à respirer comme les bébés, par le ventre et par les côtes. Si vous voulez affirmer votre voix et vous affirmer par la voix, vous pouvez commencer par chanter dans une chorale. Ou pourquoi pas prendre des cours de chant individuel, même si votre ambition n'est pas de monter sur scène. Vous pouvez aussi vous adresser à un coach vocal qui vous aidera à la libérer et à l'épanouir grâce à des exercices en voix parlée ou en voix chantée, en séance individuelle ou en groupe. Enfin, la plupart des organismes de formation proposent des stages sur la prise de parole en public qui peuvent être financés par votre employeur. Depuis quelques années, ces formations se développent également dans les écoles de commerce et d'ingénieurs. Les étudiants sont ainsi plus à l'aise lors des épreuves orales ou pour décrocher un stage. Pour certains problèmes médicaux, une consultation chez un phoniatre est nécessaire. Ce médecin ORL, spécialisé dans les maladies de la voix et du langage, peut traiter par des médicaments ou par la rééducation et prescrire des séances chez un orthophoniste. S'il estime qu'une opération est nécessaire, notamment s'il y a des polypes sur les cordes vocales, il peut orienter vers un chirurgien ORL. Ou dans d'autres cas, vers un psychologue, par exemple si une personne a perdu sa voix ou ne peut plus parler qu'en chuchotant suite à un deuil ou un traumatisme. Enfin, pour finir, un conseil pratique, il vous arrive d'être stressé avant de parler en public? Alors prenez le temps de respirer plusieurs fois profondément et plantez-vous solidement sur vos deux pieds avant de vous lancer. Vous verrez, vous vous sentirez tout de suite plus sûr de vous.
La radio qui vous veut du bien avec dans un bref instant le retour de vos chroniques santé et nous parlerons de votre chronique traitement. Ça sera juste après ceci, à tout de suite.
Bonjour, je suis là pour parler de moi. Et j'ai pas l'habitude étant donné que avant d'autres le faisaient à ma place. Mais là je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'oublie. Je prends pas mal, hein, au contraire. Et puis le plus important au fond, c'est que moi, je les oublie pas les gens. Je continue à être là, comme avant en fait. Enfin bref, je sais très bien vous trouver. J'y suis aussi. À très vite. Le sida.
Pour le faire taire, rendez-vous sur aide.org.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien. Yesterday, I saw the sun shining.
50% musique et 50% actualité santé. Avec dès maintenant, votre chronique traitement. Jessica Daguerreau.
Sachez, mesdames, que les douleurs au bas de l'abdomen, dont nous sommes parfois victimes avant ou pendant les règles, portent un nom, la dysménorrhée. Les règles douloureuses sont fréquentes à la fin de l'adolescence et à la périménopause, des douleurs parfois invalidantes et qui peuvent altérer la qualité de vie et le moral. Cela se traduit par des crampes spasmodiques dans le bas du ventre. Il arrive également qu'elles s'accompagnent de vomissements, de nausées, de maux de tête et d'un état de fatigue générale. Mais tous ces désagréments ne sont pourtant pas une fatalité et quelques indications préventives peuvent vous aider à passer ce cap sans trop de difficultés. Tout se passe du côté de l'alimentation et les recommandations sont simples: éviter le sucre et la viande rouge et privilégier le poisson gras, source importante d'oméga 3 bénéfique pour la santé. Évitez également de boire du café lorsque les douleurs sont présentes, qui au lieu d'évacuer la fatigue, aura des effets stressants sur l'organisme et augmentera les douleurs. Côté traitement, la dysménorrhée est généralement soulagée par des anti-inflammatoires dont certains sont en vente libre en pharmacie. Cependant, sachez que ce type de traitement n'est d'aucune utilité pour 20 à 25% des femmes. Il est alors possible d'atténuer les symptômes en prenant un contraceptif oral empêchant l'ovulation. Cette méthode est généralement très efficace. Une autre option est de porter le stérilet Mirena. Il s'agit d'un dispositif intra-utérin recouvert d'un progestatif. Il s'insère dans l'utérus comme un stérilet. En plus d'être contraceptif, il réduit les menstruations et les douleurs et ne se change que tous les 5 ans. En attendant et pour atténuer les douleurs, prenez en compte ces quelques petits conseils, comme de placer un coussin chauffant ou une bouillotte sur l'abdomen ou la partie inférieure du dos. N'hésitez pas également à prendre un bain ou une douche chaude. Faites des exercices légers, comme par exemple des étirements, de la marche ou de la bicyclette. Et surtout, reposez-vous et évitez les situations stressantes lorsque les menstruations approchent.
Radio Public Santé.
La radio
100% santé. 100% santé.
Je nage dans la houle, une jolie boule. Tierney.
Représentant plus d'un quart de la production globale, l'huile de palme est l'huile végétale la plus consommée au monde. Extraite de la pulpe des fruits du palmier à huile, elle est principalement utilisée par l'industrie occidentale, dont à 80% dans l'agroalimentaire. Près de la moitié des aliments transformés en contiennent, car l'huile de palme renforce une tendance moelleuse et prolonge la conservation. Mais surtout, son faible coût et son rendement spectaculaire ont entraîné les industriels à l'utiliser désormais plus que l'huile de soja. Ainsi, vous en trouverez dans un grand nombre d'aliments, pâtes à tartiner, chips, biscuits, mayonnaise, lait pour bébé, mais aussi les céréales ou encore la sauce tomate. Soyez vigilant, car l'huile de palme contient des acides gras saturés, pouvant augmenter le cholestérol et le risque de maladies cardiovasculaires. Ces graisses saturées entraînent des dépôts graisseux à l'intérieur des vaisseaux sanguins et accélèrent ainsi la dégénérescence de leurs parois internes. Très peu mise en avant dans l'information sur la composition des produits alimentaires, l'huile de palme est simplement désignée le plus souvent par l'appellation huile végétale. Aussi, on ne connaît que très rarement ses quantités présentes dans les aliments. Elle est de plus généralement hydrogénée, c'est-à-dire qu'on y injecte des particules d'hydrogène pour la solidifier, ce qui la rend encore plus nocive pour la santé. Elle se fixe alors à l'intérieur du tube digestif sur les récepteurs de la satiété, ce qui provoque une faim permanente. L'huile de palme représente donc un fort risque d'obésité. Enfin, bien qu'on ait tendance à l'oublier, l'huile de palme possède certaines vertus. C'est en effet l'aliment naturel le plus riche en bêta-carotène, 10 fois plus que la carotte, et une des huiles contenant le plus de vitamine E. Rien de grave donc, surveillez juste vos étiquettes, surtout pour les enfants. Essayez tant que vous pouvez de cuisiner, le plus simple étant de savoir ce que l'on mange.
Radio Public Santé.
La radio
100% santé.
100% santé. I know now.
qui vous veut du bien avec dans un court instant un sujet qui devrait vivement vous intéresser. Comment multiplier ses chances d'être sexuellement satisfait?
Alors Thomas, pour l'année prochaine, qu'est-ce que t'as décidé? Médecin ou infirmier?
Maman, il n'y a pas que ces deux métiers-là dans la santé.
Ah bon?
Bah oui, t'as informaticien, orthoptiste, aide-soignant, ingénieur biomédical, manipulateur radio, ambulancier, il y en a plus de 200.
200? N'importe quoi.
Bah si, 200.
Faut toujours que t'exagères.
Ça peut surprendre, mais le secteur de la santé, c'est 200 métiers et autant de façons de voir son avenir. Ceci est un message du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Plus d'infos sur métiers.santé.gouv.fr.
Radio Publique Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Publique Santé,
la radio qui vous veut du bien.
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.
Multiplier ses chances d'être sexuellement satisfait. Tout d'abord, il faut évidemment un corps en bonne santé, dans sa globalité, avoir ses veines, ses muscles, ses nerfs en bon état. Et puis, il y a aussi les paramètres psychiques qui entrent en jeu, dont la qualité relationnelle, qui joue un rôle très important dans le plaisir sexuel. Mais elle ne fait pas tout. Puisqu'on vient de mentionner l'importance d'avoir des muscles en bonne santé, il faut savoir que certains d'entre eux ont un rôle primordial dans le domaine des relations sexuelles.
Il s'agit des muscles du périnée. Cette zone fonctionne en effet à la manière d'un plancher sur lequel reposent les organes du ventre et notamment les organes sexuels. Si les muscles du périnée sont fragilisés ou trop peu sollicités, les performances sexuelles peuvent s'en faire ressentir aussi bien chez l'homme que chez la femme. Il faut savoir qu'un plancher pelvien peu musclé peut entraîner chez l'homme une éjaculation trop rapide, mais aussi une diminution du plaisir ressenti pendant l'acte. Chez la femme, un périnée peu musclé à la suite d'un accouchement par exemple peut également être la cause d'un faible ressenti du plaisir, mais aussi de difficultés à atteindre l'orgasme. Pour pallier ce type de problème dans les années 40, le docteur Kegel, un gynécologue américain, avait déjà réfléchi à une série d'exercices pour muscler le périnée. Aujourd'hui, après un accouchement, les gynécologues prescrivent des séances de rééducation périnale qui se font chez un kinésithérapeute. Ces séances permettent de faire travailler les fibres musculaires qui ont été étirées par le bébé et elles retrouvent ainsi leur tonicité. Il existe aussi une autre raison de bien muscler son périnée, cela permet de prévenir les incontinences urinaires. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on parle des bénéfices de cette musculation sur les femmes enceintes et les femmes d'âge mûr que les jeunes filles n'ont rien à y gagner. N'oubliez pas que muscler le plancher pelvien, c'est utile pour la fonction sexuelle et donc aussi pour le plaisir.
Radio Public Santé, c'est toutes les 6 minutes, un point sur votre actualité santé. Dans un instant, retrouvez votre chronique découverte. Radio Public Santé, la radio
qui vous veut du bien.
I'm not afraid to claquer les doigts est une pratique qui agit sur certaines personnes de façon compulsive. Totalement inaudible pour certains, mais tellement jouissif pour d'autres, le petit bruit de l'étirement des doigts est souvent synonyme, pour celui qui le déclenche, de remise d'aplomb ou encore de prise en main d'une situation délicate. Contrairement à ce que certains pourraient croire, le bruit que l'on entend lorsque l'on tire sur ses doigts n'est pas celui d'un os qui craque. Bien que la tonalité s'en rapproche, il s'agit en fait de l'explosion de bulles de gaz carbonique qui s'échappent du liquide synovial. Le liquide synovial, c'est un liquide présent entre toutes les articulations du squelette, appelé aussi synovie, son rôle est de lubrifier les articulations entre elles. En fait, l'étirement volontaire des doigts de la main ou des pieds forme des bulles de gaz à l'intérieur du liquide synovial qui, sitôt formées, explosent et produisent ainsi ce son si strident pour ceux qui l'entendent. Vous êtes d'ailleurs peut-être de ceux qui se sont déjà fait réprimander par leur professeur chez qui vous avez provoqué un certain agacement. Il vous aura d'ailleurs peut-être dit que cette pratique, si elle est trop souvent répétée, serait à l'origine d'arthrose. Sachez que vous auriez pu lui rétorquer que c'est faux. Du moins, cela n'a jamais été prouvé. Ce sujet a été l'objet de nombreuses études qui n'ont jamais su démontrer que les individus se faisant craquer les doigts avaient plus de chances de faire de l'arthrose que les autres. En revanche, cette pratique a un risque qui lui est prouvé. Se faire craquer les articulations agace votre entourage et il n'a pas fini de vous fusiller du regard.
Vous écoutez, écoutez, Radio Publique Santé.
La radio qui vous veut du bien.
Radio Publique Santé.
Somewhere else, far away, where you know what they mean and they mean. Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Et il n'y a pas d'accident de voiture. Pas de fille qui vomit dans le caniveau. Personne ne s'écroule par terre. Et il n'y a même pas de baston devant un bar. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour que l'alcool fasse des ravages. Au-delà de 2 verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours.
Un message du ministère de la Santé et de Santé publique France.
Radio publique santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio publique santé.
La radio qui vous veut du bien.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité. C'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché. Ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Ton papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah oh, sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah oh, sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts.
L'avouer, même si ce n'est pas très glamour, le lubrifiant à usage sexuel peut pourtant rendre de grands services. Sa première utilisation, qui est également la plus connue, est la sécheresse vaginale. Cette sécheresse peut être due à la prise de certains médicaments, au moment de la ménopause, dans les semaines qui suivent un accouchement, ou tout simplement à l'insuffisance de désir sexuel. Quoi qu'il en soit, le vagin n'est pas bien lubrifié et cela ne permet pas une pénétration confortable et agréable. Dans ce cas, l'utilisation d'un lubrifiant permet de pallier l'inconfort, voire d'apaiser la douleur, de retrouver une sensation d'humidité vaginale et des relations sexuelles satisfaisantes. Un autre cas très fréquent où le gel lubrifiant rend de grands services, c'est celui du vaginisme chez la femme. Les muscles du vagin se contractent involontairement, ce qui rend la pénétration impossible ou douloureuse. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à utiliser un lubrifiant, car lorsqu'une femme fait l'amour en ayant mal, elle risque de mettre en place un réflexe très négatif vis-à-vis de la sexualité, voire de développer un blocage. Pour les utilisateurs de préservatifs, vous y gagnerez beaucoup en confort grâce au lubrifiant. En effet, pour que le confort des deux partenaires soit total, le préservatif impose une lubrification vaginale excellente. Le gel peut être introduit dans le vagin ou bien mis sur le préservatif lui-même. Il doit bien entendu être formulé à base d'eau pour être compatible avec le préservatif en latex. Pour l'homme, une petite goutte de gel lubrifiant à l'intérieur du préservatif augmente bien souvent le confort, car le contact intime du latex, qui n'est pas forcément très agréable et peut entraîner une sensation de compression, une sensation nettement améliorée donc par le lubrifiant. Veillez tout de même à ne pas trop en abuser, car le préservatif risquerait de glisser. Pour conclure, encore une utilisation, celle-ci plus ludique, du gel lubrifiant lors des caresses sexuelles. Les muqueuses sont en effet très sensibles à ces caresses rendues bien plus douces, intimes et sensuelles par le lubrifiant. C'est ce que découvrent souvent les couples contraints d'adopter un gel lubrifiant pour des raisons médicales et qui y trouvent finalement une augmentation mutuelle de leur plaisir.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio
qui vous veut du bien.
I'd pray to you. environ 466 millions de personnes dans le monde, dont 34 millions d'enfants souffrent de surdité ou de déficience auditive. En France, selon l'INSERM, ce problème concerne 6% des jeunes de 15 à 24 ans et plus de 65% des personnes de plus de 65 ans. Cependant, il existe des traitements potentiels pour certains cas de surdité, comme l'ont révélé des chercheurs de l'école de médecine de Harvard aux États-Unis. Dans un article publié le 17 avril dans la revue PNAS, ils ont annoncé avoir réussi à restaurer l'ouïe chez des souris. Les scientifiques ont accompli cela en reprogrammant les cellules ciliées de l'oreille interne. Les cellules ciliées dotées de cils se trouvent dans la cochlée, un organe situé derrière le tympan, et sont essentielles pour l'audition. Cependant, une fois que ces cellules meurent en raison du vieillissement, de maladies ou d'une exposition à des sons trop forts, les mammifères ne sont plus capables de les régénérer naturellement. Ces chercheurs ont réussi à manipuler les cellules pour faire repousser les cils et les rendre fonctionnels à nouveau. Pour ce faire, ils ont utilisé une technique génétique appelée CIRNA qui permet d'envoyer un message génétique aux cellules pour supprimer certaines parties de leur ARN messager et ainsi les reprogrammer plus efficacement. En d'autres termes, cette technique donne aux cellules ciliées la capacité de se régénérer. Bien que ces résultats soient prometteurs chez les souris, de nombreux défis restent à surmonter avant de pouvoir appliquer ce traitement à l'homme. En particulier, il serait plus difficile de cibler les bonnes cellules à reprogrammer chez les humains. Il faudra donc encore plusieurs années avant qu'un traitement puisse être développé. Actuellement, d'autres méthodes telles que la pose d'un implant auditif dans la cochlée permet de réduire la déficience auditive, mais elle nécessite une intervention chirurgicale.
Radio Public Santé.
La radio
100%
santé. 100%
santé.